affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Rouard de l'Académie française pour parler de son dernier essai, « Ce pays des hommes sans Dieu » aux éditions Bouquin. Il s'y interroge sur les causes de l'affaiblissement du catholicisme en France et explore ses conséquences possibles. Bonjour Jean-Marie Rouard.
Bonjour.
Alors dans votre œuvre, il y a deux types de livres. Les romans, avec beaucoup de fantaisie, et les essais, vous êtes, vous le dites, binaire d'une certaine façon.
Oui, ça, je crois que ça correspond à deux tendances de mon esprit. Le roman, c'est l'évasion, la reconstruction du monde. Et c'est une forme, disons, artistiquement très différente. C'est la liberté totale. C'est je lâche les amarres et j'essaie de recréer... Vous savez, je pense que tout écrivain, tout romancier essaie de recréer une mythologie. Voilà. Il est sur le modèle des aînés de Cervantes, de l'Iliade et l'Odyssée, d'Homère. Il est, ou de la Bible d'ailleurs, parce que, comme disait Michelet, le roman finalement est une laïcisation de la Bible. Donc c'est un aspect, disons, c'est le côté magique, le côté inconscient, le côté obscur aussi. Et puis le côté ténébreux et en même temps douloureux du roman. C'est très, 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 très... Et puis c'est plus dur, le roman, parce que comme vous avez largué les amarres, vous n'avez plus de rencontre avec la réalité de ce que vous faites. Et quelquefois, vous vous dites, mais c'est peut-être complètement idiot. Et vous avez envie de jeter le roman au feu. Et ça arrive pour des gens très remarquables, avec des exemples comme pour Tolstoï ou pour Gogol. L'essai, j'essaie de garder dans mes essais, si vous voulez, de rester l'écrivain que j'espère être, en tout cas, que ce soit dans mes biographies sur Napoléon, la destinée, le cardinal de Bernice, ou même le duc de Morny, ou dans mon essai « Adieu la France qui s'en va », j'essaie de rester... Je ne suis pas un historien du tout, mais j'essaie de rester un écrivain qui donne sa vision. Et je crois que ce qui demeure... Pour un écrivain, c'est la même vision. Alors, il a beau. Et même dans mes articles, je fais beaucoup d'articles dans les journaux, eh bien, j'espère garder cette vision qui est particulière, qui est celle d'un écrivain.
Alors, dans cet essai, « Ce pays des hommes sans Dieu », vous vous intéressez aux religieux et au catholicisme en particulier. Vous, dans quel esprit avez-vous été éduqué? Comment avez-vous... Alors, rencontrer ce religieux.
Avant de répondre à votre question, si vous me permettez, je crois que mon livre a une ambition, j'espère qu'elle se voit, qui est de montrer la menace qui pèse sur quelque chose auquel je suis très attaché, et je deviens un des rares à y être attaché, c'est la civilisation française. La civilisation française qui est très originale, et cette civilisation française qui est universaliste et qui a été... disons, inspiré, modelé, façonné par le christianisme. Et c'est en cela que je m'intéresse au christianisme, puisque ce christianisme étant en perte de vitesse, notamment le catholicisme, eh bien, c'est cette civilisation qui est en péril, et elle est d'autant plus en péril que nous sommes face à l'islam, à la montée de l'islam. Et donc, voilà, c'est un peu le thème du livre, c'est dire comment renforcer notre civilisation, non seulement parce qu'elle a mal agi ça, mais pour nous-mêmes, parce que le portrait de notre civilisation, aujourd'hui, il est désastreux. Elle est en phase terminale. On se demande même s'il reste une civilisation française. Voilà, c'est le sujet. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, comment j'ai rencontré le religieux? Moi, j'ai une famille très catholique. Mon père est très catholique. Mon grand-père avait créé même les éditions de l'art catholique, c'est pour vous dire. Mais c'était en effet un catholicisme très, très marqué par la présence de l'art. Parce que, et moi, mon père faisait mon portrait en petit Jésus, vous voyez. Donc, j'ai baigné dans le catholicisme. Et je dois dire, cette association, et ça, pour moi, ça a été très important. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement important pour ma famille et pour moi, c'était cette idée de la beauté liée au catholicisme, au christianisme, puisque le christianisme avait eu cette idée géniale, empruntée aux Grecs, et qui était la vérité par la beauté. Et ça, c'est quelque chose qui a modelé l'âme française. C'est cet héritage, et vous remarquerez à quel point les Français, pendant très longtemps, se sont sentis beaucoup plus proches de la Grèce antique que des Gaulois. C'est extraordinaire. Ou même, c'est formidable de voir à quel point nous avons en permanence cherché, on le voit bien chez La Fontaine, par exemple, qui a fait les traductions, qui a remanié les fables d'Ésope. Enfin, la Grèce était la seconde patrie de la France.
Alors, ce lien entre le christianisme et la beauté, vous semblez regretter qu'il ait disparu aujourd'hui?
Il a complètement disparu, hélas. Vous savez, il suffit d'aller à la messe, j'y suis allé encore l'autre jour, c'est absolument navrant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il y a un malheureux prêtre qui est descendu de sa chair. Il y a toujours la chair qui est là, mais on se demande à quoi elle sert, elle ne sert plus à rien. Alors, on a l'impression que, avant, il proclamait la vérité, le chemin et la vie du haut d'une chair. Mais maintenant, il est descendu parce que, d'une certaine façon, on se demande s'il croit vraiment à ce qu'il dit. Je crois qu'il a été contaminé par à la fois le matérialisme et par autre chose qui est, disons, la disparition du merveilleux. Il ne croit plus au merveilleux. Et, disons, au lieu de faire ce qu'il avait toujours fait, c'est-à-dire d'être un aiguillon moral et spirituel dans la société, c'est la société qui l'a contaminé. Et je voyais, il y a un livre qui est paru d'un journaliste du Parisien qui a interrogé les prêtres sur la confession. Et il y avait un prêtre qui donnait l'exemple d'une femme qui était venue se confesser parce qu'elle avait un amant. Bon. Et qu'ensuite, le mari était venu se confesser, elle s'était rendue compte que c'était le même. Et il dit « J'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire ». Alors, je me suis dit, mais vraiment, si un prêtre en est à rire des drames humains, mais où sommes-nous? Vous voyez, nous sommes-nous? Il n'y croit plus. Et vraiment, ce livre est effroyable de ce point de vue-là. Non, le panorama de l'Église d'aujourd'hui est un panorama très attristant, parce que c'était vraiment le soubassement, le mur porteur de notre civilisation. Et ce mur porteur ayant disparu, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus grand-chose. Et ça, je fais une analyse de Vatican II. Vatican II, d'ailleurs, De Gaulle l'avait admirablement compris. Il avait dit...
L'importance de l'événement.
L'importance de l'événement. Et il avait dit, Jean XXIII a ouvert les vannes, mais il n'a pas su les refermer. Et je crois que c'était le début, au fond, de cette disparition de l'Église et de cette espèce d'influence protestante. Non pas que je conteste l'intérêt du protestantisme. Moi, je respecte profondément les protestants. Mais le mélange des deux, ça ne va pas ensemble. Voilà. Ou bien on est catholique, ou bien on est protestant. Mais ce catholico-protestantisme, à mon avis, est complètement raté.
Ce qui frappe en vous lisant, c'est que vous dites que, finalement, le catholicisme s'est plus affaibli de l'intérieur qu'en raison des coups de boutoir de l'extérieur.
Oui, il s'est plutôt renforcé des coups de boutoir de l'extérieur. D'ailleurs, regardez comme il est vivant, vivace dans les pays où il est attaqué, où il est remis en cause. Je crois qu'il y avait... Parce que le catholicisme, c'est un mouvement révolutionnaire, vous pouvez reconnaître ça. C'est une merveilleuse révolution. Jésus a introduit un élément, et je cite Romain Gary, il a introduit la féminité dans l'histoire. Voilà. Il a introduit l'idée de la femme, l'idée de la douceur, l'idée du pardon. Enfin bon. Donc c'était une révolution extraordinaire. Et cette révolution, elle a, du mal à être acceptée. À l'origine, bah, bon, tout le monde connaît les martyrs et tout ça. Mais dans beaucoup de pays, il a été en but parce qu'il remettait en cause finalement toute une idée de la civilisation. Alors moi, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour le polythéisme, pour les animistes. Et quelquefois, je me dis que c'était vraiment une merveilleuse religion. La religion grecque, c'est une merveilleuse religion. Néanmoins, je crois que ce christianisme a apporté un élément de pardon, un élément de civilisation. Et puis, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai que nous sommes modelés par ce christianisme. Tous nos réflexes, et particulièrement la France. Parce que la France, c'est quand même la fille aînée de l'Église. Et depuis Clovis, donc, nous avons passé notre temps à être influencés, que ce soit sur le plan de la peinture, de la littérature, de la musique. Enfin, nous avons été... Et surtout de notre action, dans notre vie morale et spirituelle. C'est évident que nous avons été en permanence, disons, en contact avec ce christianisme, y compris, ce qui est très frappant, dans nos querelles d'aujourd'hui, qui sont des querelles théologiques laïcisées. C'est la querelle sur le voile, par exemple. Les gens pendant des heures parlent de... On a l'impression de retrouver les querelles sur la bulle unigénitus au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les Français sont restés, au fond, très chrétiens. Tout ce droit de l'homisme, maintenant, c'est un côté chrétien. Mais, comme disait Chesterton, c'est un catholicisme devenu fou. Voilà, c'est un catholicisme devenu fou, ou un christianisme devenu fou, c'est-à-dire qui part dans tous les sens, puisque le catholicisme, qui était, disons, il régulait le christianisme. Il était une sorte de contrôle permanent du christianisme qui, sinon, se serait détruit. Parce que le christianisme était tellement révolutionnaire que certainement il aurait cessé d'exister.
C'est le rapport entre l'Église et les évangiles dont vous parlez.
Voilà. Alors ça, c'est la question éternelle de l'Église, parce que c'est de savoir où serait la parole de Jésus. La parole de Jésus continue à être respectée. Voilà, c'est tous les conciles ont passé leur temps à essayer de se confronter à la parole de Jésus qui est extrêmement simple. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que c'est vrai qu'après, la religion, c'est beaucoup compliqué.
Alors, nous comprenons bien à vous lire que c'est cette question de civilisation française en particulier qui vous intéresse et de civilisation imprégnée de christianisme. Est-ce qu'on peut avoir une civilisation chrétienne sans croyance, sans foi chrétienne ?
Oui. Je crois que la question de la foi est un peu différente. Par exemple, je crois qu'on peut, par exemple, ne pas être pratiquant, ce qui est mon cas. Hein. Mais c'est un peu mon cas parce que j'ai été chassé des églises par l'indigence des églises. Mais ce qui m'empêche pas que je me sens un catholique culturel, un chrétien culturel. Je trouve que c'est... Parce que ça fait partie de moi. Je ne peux pas y échapper. D'ailleurs, je te dirais même pour un musulman vivant en France, quelqu'un de la religion juive ou un orthodoxe, il est forcément, s'il vit en France, il est forcément imprégné. C'est ce que disait Romain Gary, d'ailleurs, qui était juif d'origine et russe. Et il disait « Je me suis converti au catholicisme, parce que ce sont les papiers d'identité de la France. » Je crois ça profondément. Je crois qu'il y a vraiment une très, très forte influence du catholicisme sur l'idée de la France. Parce que, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la France, l'idée de la civilisation française, qui a attiré à elle tellement de gens extraordinaires, enfin, qui se sont convertis à l'idée de la France. Je pense à Ionesco, ou à Sioran, ou à Romain Gary, vous voyez. Beaucoup de gens sont venus vers la France pour sa langue, mais sa langue est elle-même l'expression, justement, de l'âme française. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est pourtant qu'on ne peut pas séparer, disons, la langue de l'âme de la France.
Alors, il y a d'autres religions en France, ou non-religions d'ailleurs. Quelle place est-ce que vous leur donnez ?
Mais ce qu'il y a de formidable dans le christianisme, c'est qu'il était très accueillant. Il y a une curiosité française qui a été extraordinaire. Écoutez, les jésuites ont été les premiers à aller en Chine. Le père de Foucault était donc en Algérie, et au Maroc. Il a énormément... les moines de Tibérine, sur lesquels j'ai eu l'occasion d'écrire, étaient donc en Algérie. Donc, il y a eu une curiosité absolument formidable des Français à travers les jésuites, notamment, mais pas seulement. Je crois que c'est la mentalité française, c'est d'être attiré par tout ce qui lui est différent. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait une très belle phrase de Suarez qui disait « Aimer la France, c'est aimer tout ce qui n'est pas la France ». Et c'est formidable, ça montre cette ouverture extraordinaire qui est d'ailleurs venue de ce christianisme tolérant et de la Grèce antique. Voilà. Il y a une synthèse là, qui est faite, et c'est ce qui constitue la richesse de cette civilisation française qui est en phase terminale, parce que ce que je vous dis, puisqu'elle reposait sur plusieurs piliers. Le principal pilier, c'était l'État, et ensuite, c'était la religion, et c'était la littérature. Et je cite deux écrivains allemands. L'un, c'est Curtius, et l'autre, c'est Seeburg, l'auteur de Dieu est-il français. Et ces deux auteurs qui ont écrit dans les années 1935 disent, mais c'est extraordinaire à quel point la France est tenue à la fois par la religion et par la littérature. La littérature est colossale, puisque c'est le lien. Vous savez, les gens, quand ils passaient leur certificat d'études, ils connaissaient Victor Hugo, ils connaissaient Voltaire. Il y avait une connaissance profonde, même dans les milieux très populaires et pas très cultivés. Mais quand même, on connaissait nos grands auteurs.
Une familiarité.
C'était le lien. C'était le lien parce qu'on savait très bien qu'au fond, ce qui a constitué la France, ce n'est pas tellement ces hommes politiques, ce sont ces grands écrivains. D'ailleurs, les grands écrivains ont inspiré les politiques. Regardez Jean-Jacques Rousseau, Voltaire.
Vous parliez de cette curiosité ou de cette fascination pour des mondes étrangers et vous développez en particulier celle pour l'islam qui est très ancienne en réalité, qui peut, avec un premier contact au moment des croisades, et vous évoquez plusieurs figures intéressantes, dont celle de Louis Massignon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, mais ça, c'est si vous voulez, je crois que dans cette curiosité, il y a eu notamment vis-à-vis de l'islam. Alors, la personne la plus emblématique de cette, c'est une femme d'origine russe, mais qui est française par l'écriture. Enfin, c'est Isabelle Eberhardt. C'est Isabelle Eberhardt qui est d'ailleurs a connu à la fois le père de Foucault, Louis Massignon et Lyautey. Et Louis Massignon s'est converti à l'islam. Il a été un grand professeur au Collège de France. C'était une grande figure, mais il n'est pas le seul. Il y a eu Jacques Berck, il y a eu Rémi Brague, il y a eu Henri Corbin. On a de très grands spécialistes, et encore aujourd'hui des plus récents, mais qui ont eu une curiosité, un attachement. Alors, quelquefois avec des réserves. C'est le cas du père de Foucault. Le père de Foucault considérait que l'islam avait beau être passionnant en soi, il était difficile pour les musulmans de s'adapter complètement à la mission française. Mais je crois que ça, c'est daté. Je crois que c'est une vision un peu coloniale, parce que c'était en 1905, c'était très ancien. Je crois qu'aujourd'hui... Et nous avons des exemples quand même de beaucoup de musulmans qui se sont, notamment d'écrivains, qui se sont, disons, modelés grâce à ce pouvoir d'attraction de la civilisation française. C'est pour ça qu'ils sont devenus écrivains. Eh bien, je pense à Kamel Daoud, je pense à Boualem Sansal, à Kadour, à Sonia Mabrouk, qui vient de sortir un livre, à Tahar Ben Jeloun, qui est le plus ancien. Donc, Leïla Slimani, tous ces écrivains, au fond, ils ont aimé la France, alors d'une façon différente, hein, mais le fait qu'ils soient musulmans, enfin, venus d'une culture musulmane, ne les a pas du tout empêchés. Au contraire, ils ont trouvé. Donc, je crois que c'est possible. Moi, je crois que c'est possible. Et de toute façon, je fais partie de ceux qui disent que même s'il y a des difficultés, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas de doute. Sinon, il y a 6 millions au moins de musulmans qui seront dans 20 ans ou dans 30 ans, qui seront peut-être 20 millions. Donc, il faut essayer de régler le problème comme on a réglé le problème avec le protestantisme au XVIIe siècle. Et je crois, et pas le régler d'une façon aussi violente, parce que c'était quand même à Saint-Barthélemy, c'est pas souhaitable. Donc je pense qu'il peut y avoir une sorte d'accord entre musulmans, d'une insertion dans la société française, dans la civilisation française, à partir du moment où cette civilisation française sera à la fois estimable et séduisante. Mais pour l'instant, c'est là, parce que je fais la critique de ce que nous sommes. Nous sommes, qu'est-ce qui règne ? Nous sommes dans le règne du fric. Nous ne sommes plus des citoyens, nous sommes des consommateurs. Nous sommes asservis complètement, que ce soit les GAFA, que ce soit tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'il y a une seconde où vous n'avez pas un message publicitaire ? Je suis d'ailleurs étonné, il faut venir ici pour ne pas entendre un message publicitaire. C'est effrayant. Partout, vous êtes agressé par la publicité. Et cette publicité, il faut bien le reconnaître, non seulement vous êtes agressé par cette publicité, mais en même temps, vous êtes colonisé. On a l'impression que la France est la 51e étoile de l'Amérique et qu'on fait partie d'une petite colonie américaine. Vous voyez, parce que tout, maintenant, regardez notre langue qui fiche le camp complètement. C'est effroyable. Et qui réagit ? Personne ne réagit. On se laisse peu à peu détruire ce qu'a fait notre civilisation, parce que civilisation, ça passe par la langue. Et notre langue, elle sera, dans 20 ans, une langue morte. Déjà, le franglais avait été dénoncé par Etiamble, il a été dénoncé par Sioran, il a été dénoncé par beaucoup d'écrivains. Moi-même, j'ai écrit beaucoup d'articles sur ça. Mais ça n'intéresse personne. Les Français, bizarrement, se laissent complètement contaminer. Et regardez, même...
La Sorbonne, vous dites.
La Sorbonne Université. Non, mais attendez, c'est à hurler de désespoir.
Ce qui manque peut-être aussi, vous le dites, c'est une forme de spiritualité qui, elle, est présente dans l'islam. Et c'est une grande force de l'islam d'avoir une spiritualité extrêmement puissante.
Alors, je crois que la spiritualité française n'a pas disparu. Il faudrait, alors là, aller dans les monastères. Je crois que les monastères sont des oasis de civilisation. Je crois que vraiment, il y en a... Moi, j'ai rencontré beaucoup de moines... vraiment, qui sont des bénédictins. Et vraiment, c'est peut-être là la survie du christianisme et de la civilisation, comme ça a été le cas au 8e siècle. Vous savez, après les invasions barbares, la culture s'était réfugiée dans les monastères. Et je pense que de ce point de vue-là, spiritualité... Mais disons, je crois qu'il y a une autre forme de spiritualité... Et là, je m'inspire un peu de Malraux, vous savez, dans lequel il disait que l'art est un anti-destin. Eh bien, une autre forme de spiritualité qui est dans l'art. Je crois qu'un artiste, même s'il ne va pas à la messe, d'une certaine façon, il se consacre à quelque chose qui est très, très spirituel. Et il est là avec il a un dialogue avec les forces de l'esprit. C'est une forme de spiritualité. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer chez certains, chez Baudelaire, chez Van Gogh, chez beaucoup d'artistes, il y a un lien avec le spirituel.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette civilisation française ?
D'abord, je souhaiterais que les Français s'indignent. S'indignent en se disant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous sommes devenus ? Nous sommes devenus une sorte de territoire complètement à la fois qui ne nous appartient plus. Nous appartenons plus à notre propre pays, puisque je parle sur le plan, pas seulement sur le plan de l'immigration, mais sur le plan, disons, de l'invasion, de la colonisation américaine. Et en même temps, sur le plan de la colonisation par l'argent. C'est Roger Garaudy avait dit, avait écrit un livre qui s'appelait le monothéisme du fric. Eh bien, c'est vrai qu'il y a cette espèce de maintenant, il n'y a que ça qui compte. Il y a un matérialisme absolument effroyable. Donc je crois que c'est notre survie, elle dépend de notre prise de conscience que nous avons abandonné. L'État n'a plus aucune action. Vous voyez bien, la sécurité n'est pas maintenue. Vous avez des squatteurs, vous avez une maison, elle est envahie par les squatteurs. Bon, il n'y a plus vraiment d'État. il n'y a plus de religion vraiment digne de ce nom et il n'y a plus de littérature. Voilà, la littérature, tout le monde s'en fiche. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître. Ce qu'on cherche, c'est la liste des best-sellers, c'est les listes qui se vendent. Voilà. Donc, tout ça, c'était ce qui constituait la civilisation française. Donc, il faut prendre conscience, simplement, essayer de revenir à ces fondamentaux, à ces murs porteurs.
Est-ce qu'une idée forte du christianisme que vous auriez envie de conserver, de transmettre ?
L'idée, pour moi, la plus forte, il y en a beaucoup, hein, mais c'est du point de vue civilisationnel, c'est cette idée de la vérité illustrée par la beauté. Et ça, je crois que c'est quelque chose de, disons, de très important. Et c'est pourquoi il me semble que, vous voyez, c'était une transmission ancestrale. Et c'est pourquoi je me demande si, justement, dans l'art contemporain, je ne critique pas l'art contemporain comme Luc Ferry qui rejette complètement l'art contemporain. Non, mais je dis, il y a quand même dans l'art contemporain une rupture. Une rupture avec la tradition française qui faisait que tous les peintres, au fond, se répondaient de génération en génération. Et là, il y a une rupture. Et c'est peut-être une rupture en plus, une rupture avec la nature. La nature et avec même, on pourrait dire, avec l'humain. Avec l'humain, subitement, on ne voit plus un visage. On ne voit plus, finalement, tout ce qui nous touchait, au fond, dans la peinture. C'était de voir des visages, de voir des paysages. Subitement, tout cela a disparu au profit de créations intellectuelles qui peuvent avoir leur valeur. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est quand même... Ça fait un monde, si vous voulez, très abstrait, c'est le cas de le dire. Si vous voulez, un monde qui n'est plus très vivable. Voilà. Je trouve que l'ensemble du monde d'aujourd'hui, ce monde à la fois sur Internet et sur le, est difficilement vivable. Pour se sauver, il pourrait justement trouver la voie de la littérature, du livre, ou de l'art, ou de la peinture, ou de la musique. Mais hélas, il ne prend pas cette voie parce que la domination de l'argent, parce que regardez la télévision tous les soirs, vous ne verrez pas beaucoup, justement, de place donnée à l'art.
Et quelle est votre espérance pour la littérature française ?
Eh bien, mon espérance, ça serait justement cette prise de conscience. Cette prise de conscience de considérer que ce n'est pas une petite chose, la littérature. On croit que c'est ennuyeux. Alors maintenant, un jour, dans une bibliothèque municipale et quelqu'un me dit oh, je lui dis qu'est-ce qu'ils lisent vos abonnés, il me dit oh, pas des classiques parce que les classiques sont ennuyeux. Je dis mais comment, mais ce sont les livres contemporains qui sont ennuyeux, les classiques sont pas du tout ennuyeux. Et c'est ce qui est merveilleux, justement, c'est la diversité. Et en même temps, la littérature, c'est une école de tolérance, parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ses amis qui enchantent la vie », dans lequel j'ai choisi 120 écrivains français et étrangers. Et pour montrer qu'ils étaient complètement différents. Il y avait d'anciens bagnards, comme Jean Genet, des catholiques, comme Mauriac. Enfin, il y a une variété humaine extraordinaire. Des gens qui sont des gens merveilleusement gentils, d'autres qui sont carrément, disons le mot, des salauds. Mais ce qui n'empêche que cette variété, à travers la littérature, ils expriment le meilleur de l'homme. Voilà. Et donc, je pense que cette littérature, qui était un lien à la fois entre les Français, mais pas seulement les Français, la francophonie, et même l'étranger, il faut voir à quel point, justement, les francophones sont navrés de voir dans quel état nous sommes, dans quel état nous laissons périr notre langue, et auquel ils sont tellement attachés.
Eh bien, un grand merci Jean-Marie Rouard de nous avoir partagé toutes vos réflexions. Je rappelle le titre de votre livre, « Ce pays des hommes sans Dieu », et c'est aux éditions Bouquin. À bientôt.
Merci. Thank you.